Sciences Po Aix et les étudiants des masters métiers de l'information, politique culturelle et Coris vous présentent Révolution numérique, un podcast réflexif pour mieux comprendre et interroger les enjeux numériques de l'information. Pour cette quatrième saison, l'équipe a décidé de se plonger dans l'affaire Naël. Nous avons interrogé la manière dont le numérique a façonné les conséquences politiques et publiques du scandale.
Bienvenue dans l'épisode numéro 6.
Nous sommes Émilie,
Mathis,
Marie,
Emma
et Alice.
Et aujourd'hui, nous vous parlerons du traitement des vidéos postées en ligne par la police et la justice.
Oh les bâtards !
Ça c'est pour la...
C'était le 30 juin dernier, troisième nuit d'émeute après la mort de Naël, tué à 17 ans par un policier à Nanterre. Les grandes villes de France s'embrasent, Snapchat, Twitter ou TikTok sont inondées d'images de violence, d'incendies, de pillages, de dégradations de bâtiments, mais également de violences policières et d'assauts musclés.
Les réseaux sociaux apportent une nouvelle manière de raconter la manifestation, parfois à l'encontre du discours officiel, celui des responsables politiques. Ce sont donc des passants, des journalistes, voire des émeutiers qui postent des vidéos prises sur le vif. Dans cette accélération médiatique, certains internautes partagent des vidéos qui témoignent d'actes répréhensibles utilisés ensuite dans les enquêtes policières et judiciaires. Selon France Info, 32 émeutiers identifiés dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont été arrêtés.
De la même manière, des policiers sont aussi visés par des enquêtes, comme celui qui a tiré sur Naël ou les policiers de la BAC impliqués dans l'affaire Eddy à Marseille. L'utilisation des vidéos collectées sur les réseaux sociaux ne révolutionne pas la pratique des enquêtes, mais ces chiffres montrent qu'elles y ont leur place. Mais alors, quelle importance ont ces vidéos dans les enquêtes judiciaires et policières? Quels changements ont-elles amené dans ces deux professions?
Comment une vidéo postée par des gens comme vous et moi peut devenir une preuve dans un procès?
Tout d'abord, qu'est-ce qu'une preuve? Il s'agit d'un élément qui montre la réalité d'un fait ou d'un droit. En ce sens, il persuade l'esprit d'une vérité. En justice, l'accusation doit toujours s'accompagner d'une preuve. D'après l'article 427 du Code de procédure pénale, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve. On dit alors que la preuve est libre, c'est un principe du droit français.
Vous pouvez, en qualité de particulier, apporter n'importe quel type de preuve, et notamment des vidéos que vous aurez prises, des vidéos que vous aurez dérobées le cas échéant à quelqu'un qui les aura prises à votre insu, ou à, en tout cas des vidéos qui ne vous appartiennent pas.
Explique Marc Rivet, magistrat, président du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence et professeur de droit pénal. Donc, la vidéo peut être considérée comme une preuve libre lorsqu'on la trouve sur les réseaux sociaux. Il distingue deux types de vidéos, les vidéos prises par des amateurs et celles enregistrées par les caméras de surveillance.
On est aujourd'hui dans un pays où il y a plusieurs centaines de milliers de caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection, quel que soit le nom que vous leur donnerez, qui sont généralement gérées par des autorités publiques. Et puis parce que les gens ont désormais pris l'habitude d'utiliser énormément leur téléphone portable, et lorsqu'ils constatent quelque chose d'inhabituel, filment, soit parce qu'ils sont victimes, soit parce qu'ils sont témoins, ce à quoi ils sont en train d'assister.
Dans tous les cas, la vidéo est une preuve numérique, comme l'explique Maître Otto, avocat pénal à la Cour d'Aix.
D'une manière générale, la vidéo fait partie donc de la preuve et plus spécifiquement de la preuve numérique. Le code de procédure pénale n'est pas forcément précis sur cette notion de preuve numérique.
Mais pour administrer une preuve, il y a une procédure à respecter et la preuve vidéo n'y échappe pas. Déjà, la preuve doit être collectée de manière légale et cela s'applique aux autorités publiques comme la police, le magistrat, le juge. On parle d'exigence de loyauté. Le magistrat, par exemple, ne peut pas faire appel à des hackers pour récolter les messages privés d'un individu suspecté. L'autre principe, c'est que toutes les parties du procès doivent être informées qu'une preuve a été versée dans le dossier et peuvent exprimer leur point de vue dessus, afin de respecter le principe de procès équitable. L'utilisation des vidéos comme preuve n'engendre donc pas de changement majeur dans les procédures juridiques.
Passons maintenant à l'aspect pratique. Intéressons-nous à l'enquête policière.
Selon Jonathan Bourguignon, professeur de droit public à Paris 2, les réseaux sociaux sont de véritables viviers d'informations pour constater les infractions à la loi pénale, pour rassembler les preuves ainsi que d'en rechercher les auteurs.
Mais comment les policiers travaillent-ils avec ces vidéos? Il a été difficile pour nous d'obtenir des informations avec un service de brigade spécialisé. En effet, ces informations étant sensibles, ils n'ont pas voulu donner suite à nos demandes d'interview. Nous nous sommes donc tournés vers l'Office mineur, un service d'enquête de la Direction nationale de la police judiciaire, qui depuis septembre 2023 lutte contre les infractions commises contre les mineurs. Tiphaine Desbordes, adjointe au chef du bureau des partenariats de l'Office mineur, nous informe que le gros du travail concerne la lutte des infractions commises sur Internet.
Alors, on constate depuis plusieurs années que le développement des nouvelles technologies et leur utilisation par le plus grand nombre, et notamment par les jeunes, favorisent les dérives et donc les infractions qui sont commises sur Internet.
Les réseaux sociaux constituent donc un terrain particulièrement propice à la recherche de comportements illicites par la publication massive de ces vidéos ou d'images, que ce soit des contenus pédocriminels ou des dégradations de bâtiments publics. Les services de police, agissant sur commission rogatoire, exploitent ces vidéos qui seront ensuite intégrées au dossier, prenant la forme de procès-verbaux d'exploitation ou de capture d'écran légendé.
Ces vidéos, publiées sur les réseaux sociaux, peuvent être signalées par les internautes via une plateforme, Pharos. C'est ce qu'il s'est passé en juillet dernier, où plus de 2700 signalements ont été reçus en lien avec les émeutes selon France Info.
Les vidéos ont servi à arrêter 32 personnes. Pendant les émeutes qui ont suivi la mort de Naël fin juin 2023, beaucoup de vidéos de dégradation de magasins, d'incendies de commissariats et autres ont été partagées sur les réseaux sociaux, parfois même en live. Elles ont été dénoncées par les citoyens sur Pharos. C'est une piqûre de rappel importante. Sur Internet, personne n'est vraiment anonyme, même derrière un pseudo.
Donc Pharos, c'est ce qu'on appelle la plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements qui a été créée en 2009 en France. Et en fait, cette plateforme permet de signaler les contenus illicites publics qu'on retrouve sur Internet. Le dépôt d'un signalement via Pharos, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une plainte. Ça ne dispense pas à la victime de l'infraction de déposer plainte auprès d'un service de police ou de gendarmerie.
Depuis le début de l'année 2021, 46 enquêteurs et cadres sont affectés à la plateforme et analysent et recoupent des centaines de milliers de signalements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Selon le bilan d'activité du premier semestre 2023 fourni par le ministère de l'Intérieur, 91 221 signalements ont été faits sur la plateforme. Les équipes effectuent également un travail de veille sur les réseaux sociaux.
Ensuite, on peut se demander qu'est-ce que devient mon signalement. Donc la plateforme est gérée par des policiers et des gendarmes. Ils vont prendre connaissance du signalement et se demander si, oui ou non, c'est une infraction. Si c'en est une, soit le signalement est transmis au service de police ou de gendarmerie territorialement compétent parce qu'on a assez d'informations pour savoir d'où vient l'infraction, soit une enquête est ouverte pour identifier un critère de territorialité.
D'autres brigades d'intervention se sont également mises en place sous l'impulsion de la police judiciaire. Les cyberpatrouilles est un moyen de lutte créé en 2007 qui consiste à surveiller les délits commis sur Internet et combattre la cybercriminalité.
Leur méthode d'investigation est l'enquête sous pseudonyme. En pratique, cette enquête ne révèle pas du quotidien de l'action de la police judiciaire. La décision d'y recourir n'intervient généralement que lorsqu'un nombre significatif d'éléments concernant un internaute a déjà été recueilli, notamment par le biais de la plateforme Pharos, déjà évoquée. Les actions que peuvent entreprendre ces cyberpatrouilles sont énumérées par la loi. Initialement cantonnées aux infractions de traite des êtres humains et aux infractions d'atteinte aux mineurs, elles prennent depuis 2014 en compte l'ensemble des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisée.
Nous avons donc abordé les changements qu'ont amenés les vidéos dans les enquêtes policières. Ces informations sont considérées comme du contenu sensible, mais les éléments que nous avons pu récolter nous permettent tout de même de saisir la portée des procédures et des techniques d'enquête mises en place au sein de la police. Intéressons-nous maintenant aux changements dans les professions judiciaires. Mais avant ça, pause chanson.
Le procès commence. L'audience se lève à l'arrivée du président du tribunal. Les magistrats présentent les faits avec des vidéos à l'appui.
Deux semaines plus tôt, les magistrats sont à l'œuvre. Une vidéo accablante a été versée au dossier. Comment la vidéo est-elle traitée ? Marc Rivet, président du tribunal correctionnel d'Aix, nous en dit plus.
La difficulté d'ailleurs n'étant pas tellement de savoir si on nous oppose comme moyen de preuve une vidéo, mais la manière dont on la reçoit dans le procès et la manière dont on administre cette preuve. C'est-à-dire, est-ce qu'on regarde cette vidéo? Est-ce qu'on fait appel à des tiers pour commenter cette vidéo? Et dans ce cas-là, il faut qu'ils établissent un document, alors un procès-verbal, un rapport, pour nous dire ce qu'il y a sur la vidéo. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement la vidéo en elle-même qui pose difficulté, c'est l'usage qu'on en a.
La valeur probante des vidéos peut ainsi être contestée. Lors de son examen, il faudra déterminer plusieurs choses. L'identité du destinataire, de l'auteur, et vérifier l'intégrité du document, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'a pas été modifié ni coupé. Parfois, des experts en la matière sont mandatés par les magistrats pour apporter des réponses à ces questions. Sans cela, la vidéo peut être considérée comme peu fiable et donc rejetée.
Marc Rivet nous explique également qu'il est primordial de s'assurer que le jugement des magistrats n'est pas trompé par ce moyen de preuve. Il alerte sur la dimension particulière de la vidéo qui, par son visionnage, peut contribuer à la construction de biais.
Vous allez voir quelque chose et vous allez immédiatement avoir tendance à considérer que ce que vous voyez correspond à la vérité.
Est-ce que les magistrats et les juges sont formés à recevoir de manière la plus neutre possible ces vidéos? Est-ce possible d'y être totalement protégé?
Même avec quelques années d'expérience, je pense que je suis comme les uns et les autres, c'est-à-dire lorsque je vois quelque chose, je l'intègre d'une certaine manière dans mon raisonnement. C'est pas la même chose lorsque je le lis ou lorsque je l'entends. J'ai beau me dire il faut être prudent, ça s'inscrit dans une administration prudente de la preuve. Là, vous recevez un élément de preuve, vous devez en faire un élément de réflexion, vous veillez à utiliser avec précaution cet élément de réflexion. C'est quand même, encore une fois, c'est tellement confortable en plus. Ça vous dispense de souvent de beaucoup de réflexions. Vous voyez les choses. Ouais, bah, la scène de l'agression, vous l'avez sous les yeux. Le réel s'est reconstitué sous vos yeux. C'est assez extraordinaire.
Il n'est pas le seul à prévenir du danger des vidéos dans leur retranscription du réel. La sociologue Élodie Lemaire alerte sur la fiabilité de la vidéo qui nous donne, selon elle, l'idée d'une retranscription fidèle au réel. Or, cette évidence est trompeuse.
Une vidéo demeure un élément extrait d'un événement dont nous ne connaissons pas toujours le contexte, le lieu exact et l'identité des personnes filmées. Le cadre est imprécis. Alors nous pouvons dire que la vidéo est une évidence visuelle qui ne raconte rien de l'acte lui-même.
Prenons l'exemple d'une situation d'altercation, comme il y a pu avoir lors des manifestations de juillet dernier. Dans le cadre de ces manifestations et de rencontres musclées entre manifestants et forces de l'ordre, les vidéos permettent-elles d'établir la vérité sur les faits?
Si vous voyez un jeune homme porter un coup sur un policier, ça ne veut pas forcément dire que le jeune homme a agressé le policier. Ça peut vouloir dire que le jeune homme se protège parce qu'il vient de recevoir des coups de la part d'un policier. Et l'inverse est tout aussi vrai. Quand vous voyez des policiers faire usage de la force à l'égard de manifestants, ce n'est pas forcément la signature d'une brutalité policière, d'une violence policière. C'est peut-être des manifestants qui, depuis plusieurs minutes, s'opposent aux policiers et tentent de les mettre en difficulté. Mais ce qu'on vous montre, c'est souvent un moment isolé d'autres moments et qui est de nature à biaiser votre analyse de la situation.
Et du côté des avocats, comment œuvrent-ils pour contrer cette vidéo? Reste-t-il une marge de manœuvre à l'avocat quand son client est mis en cause par une preuve vidéo?
Maître Otto nous répond.
Alors, il me reste une marge de manœuvre à plusieurs niveaux. La première, c'est le cadre juridique dans lequel donc, cette preuve vidéo a pu être prise, saisie. Est-ce que nous sommes dans un cadre privé stricto sensu ou alors est-ce que nous sommes dans un cadre public, donc, c'est-à-dire sur la voie publique? Et dans ces cas-là, bien évidemment, c'est différent. Et l'autre chose après, c'est de regarder la qualité de la vidéo qui permet ou pas d'identifier effectivement la personne en cause.
Pour Maître Massia, avocat au barreau de Toulon, il reste encore des leviers qui permettent de défendre le client malgré des marges de manœuvre réduites. En écartant par exemple une vidéo lors d'un procès grâce à l'argument de loyauté ou en utilisant l'argument de la personnalité du client.
La marge de manœuvre dont nous disposons est celle qui consiste à plaider la personnalité de notre client. Le fait de dire que par rapport aux faits qui y sont reprochés, quelles sont les raisons qui l'ont amené à commettre ces faits.
Mais les avocats d'une présumée victime peuvent aussi utiliser une vidéo pour prouver la culpabilité de la personne mise en cause, dans le cas de violences policières par exemple. C'est évidemment ce qu'a fait l'avocat de Naël.
Maître Massia le rappelle donc, la vidéo dans le cadre de la plaidoirie est au cœur du procès et constitue un élément indispensable qu'il doit collecter pour le jugement.
Les enregistrements, par exemple, vidéo, sont fondamentaux puisqu'ils permettent, in fine, de retenir ou pas la qualification de violence orchestrée par exemple, un policier à l'égard d'un manifestant.
Les avancées technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle amènent un challenge auquel vont devoir faire face les acteurs de la justice. Créer des images ou en mettre de faux sur des visages sont autant de possibilités qui remettent en cause la fiabilité de la preuve. C'est ce dont Marc Rivet nous met en garde.
Très concrètement, on ne s'y prépare pas et on n'y est absolument pas prêt, ce qui ne signifie pas qu'on est complètement désarmé.
Dans le cadre d'un procès pénal, une enquête se forme, des débats se créent et se fondent sur l'analyse de vidéos.
Si à un moment donné, vous avez un doute sur l'intégrité de la vidéo, et ce doute, précisément parce que vous êtes dans le cadre d'un débat, il va très vite émerger. Dans ce cas-là, le juge va saisir un expert en lui disant « faites-moi une expertise de cette vidéo et dites-moi si elle apparaît avoir été entièrement composée artificiellement ou si des plans ont été reconstitués. »
Maître Otto, de son côté, estime que l'intelligence artificielle pose des questions en matière d'authenticité des vidéos.
Il faudra donc se pencher d'une manière rigoureuse et vigoureuse sur les problématiques d'authentification, de signature électronique, et enfin donc tous les moyens de certification pour être sûr et certain que les éléments numériques versés dans un débat, et notamment une vidéo, qui pourrait être tout à fait créé ex nihilo par l'intelligence artificielle, soit bien une vidéo correspondant donc à une réalité qui s'est passée.
Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais.
Après tous ces mots et ces paroles, ne serait-il pas temps de nous confronter aux images ?
Parfois, il nous semble difficile de comprendre cet emballement d'images, en succession rapide. Parfois, au contraire, ces images nous semblent explicites. Elles nous parlent et l'évidence nous saute aux yeux. Et pourtant, des questions peuvent rester en suspens et ces vidéos restent et hantent notre esprit.
Pour mieux comprendre les images, photos et vidéos qui font partie intégrante de notre quotidien, sur les réseaux sociaux, internet ou encore la télévision, Arte a décidé de consacrer une nouvelle émission pour analyser les images qui font l'actualité. Dans le dessous des images, la journaliste Sonia Develier revient dans Manif, la révolution en images, sur la nouvelle façon de capturer les mouvements sociaux et analyse le pouvoir des séquences des violences filmées en faisant intervenir journalistes et réalisateurs.
Récapitulons. L'incorporation des vidéos dans les dossiers pénaux n'a pas entraîné un bouleversement de la loi. Les vidéos constituent une preuve comme les autres. En revanche, la multiplication des nouvelles technologies et des vidéos nécessite l'adaptation des acteurs de la profession dans la réception de celles-ci. Encore une fois, ce n'est pas la nature de la preuve qui est en cause dans ces affaires, mais la portée que celle-ci a sur son auditoire. De plus, le développement de l'IA demandera aux policiers, aux juges et aux avocats de redoubler de vigilance et de rigueur.
Maintenant que vous êtes incollables sur l'apport des vidéos comme preuve et leur utilisation par la justice et la police, nous vous invitons à écouter le prochain podcast pour en apprendre davantage sur le rôle des amateurs et des journalistes dans ces vidéos. On espère que le podcast vous a plu. C'était Émilie,
Mathis,
Marie,
Emma
et Alice.
À très vite sur Révolution Numérique.